la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonjour chers lecteurs, chères lectrices, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans votre émission Un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère pour la dernière émission de la saison 2021-2022. Il est 19h, nous sommes le mardi 31 mai pour cette première diffusion, ou l'un des vendredis suivants à midi et demi, et c'est bien d'une date que je veux vous parler, non pas du 31 mai 2022, mais du 4 février 2020, jour de fête pour les Véroniques, Vanessa, Gilbert et Bérénice. 4 février, date anniversaire de Nathalie Imbruglia, dont le visage tapissait la chambre d'une toute jeune adolescente, Valérité, par des posters glanés dans ce formidable magazine Top 50 dont la parution s'est arrêtée en 1991, faute de lecteurs assidus, et dont les nombreuses lettres, nombreuses suppliques de la toute jeune Valérité n'ont pas suffi à faire changer la donne. Oui, ce 4 février 2020, c'était tout juste un mois après la découverte des 3 premiers cas de Covid-19 en France, 12 cas confirmés en France au 17 février 2020, 12 comme le nombre de bières bues par Valérité lors de cette soirée du 4 février 2020, date de la dernière émission d'un livre sur le zinc en direct d'un bar lozérien.
Ah.
Avant une longue traversée du désert entre confinement, reprise d'épidémie, reconfinement, re-reprise d'épidémie, variant, nouveau variant, renouveau variant, re-re-re-nouveau variant, tous ces variants que Valérité n'a jamais connus, elle qui en 2 de pandémie n'a réussi à attraper que la goutte.
Sérieux?
Pourquoi je vous dis cela? Car nous sommes aujourd'hui quasi au complet au bar L'Osmose à Monde pour cette dernière de l'année 2022. On remercie Serge de L'Osmose qui nous accueille avec Marlène qui est là. Ohio Marlène!
Salut!
Jenki Desuka, Claire!
Ni hao! Mais je crois que c'est chinois en fait.
Oui, c'est chinois. Et je te demandais comment allais-tu? Mais hao, ça
bien,
marche peut-être.
Bien,
bien. Ok. Waniwa Doko Desuka, Pauline!
Oui?
Non. Ah non.
J'ai tenté.
Je te dis, où est le crocodile?
Ah!
Biraga Odeseuka Val.
Oh, Akira Kani!
Si, et un bien.
J'ai dit évidemment. Il m'a demandé si je voulais une bière, je lui ai dit évidemment, c'est bien ça?
Ça sert que tu sois à côté de moi pour voir mes petites fiches.
J'ai pas mes lunettes pourtant.
Eh oui, nous partons au pays du soleil levant à l'heure où nous enregistrons cette émission. Il est 17h57 à Tokyo, 17h57, heure à laquelle Valérie prépare son petit repas du soir tiré du livre « Je mange bien, ne t'en fais pas », quatre récits de cœur et de cuisine de quatre auteurs, Areno Inui, Eto Mori, Mitsuyo Kakuta et Kaori Ekuni, quatre écrivaines nées dans les années 60, lauréates de nombreux prix, quatre variations sur les thèmes du partage et de la nourriture.
Eh bien, merci Ludo pour cette belle introduction à ce livre qui, malgré un titre qui donne envie de ne pas l'ouvrir, vaut le coup de le lire. C'est « Je mange bien, ne t'en fais pas », quatre récits de cœur et de cuisine. Chers amis japonais, réfléchissez avant de choisir vos titres. Voilà, alors en fait, c'était un peu une belle surprise, ce livre. Comme j'ai dit, je l'ai lu un peu à reculons par rapport au titre qui me faisait penser à le « Je vais bien, ne t'en fais pas », ou ça me faisait penser aussi à « Mange, prie, aime », et je me suis dit « Oh là là, bon sang, ça va être horrible ». Originalité de ce livre par rapport à tout ce que j'avais pu lire sur la littérature japonaise, notamment sur Ogawa Ito ou Aki Shimazaki, dont on parlera plus tard, c'est que les autrices en fait racontent des histoires qui se passent en Europe pour la plupart, puisqu'on est au Pays Basque, en Bretagne, en Italie et au Portugal, donc c'est pas pour la plupart en Europe, c'est tout en Europe, et du coup ça donne un autre rythme à cette littérature que celle qu'on peut lire des histoires qui se passent au Japon. Ce sont quatre récits totalement différent parce que quatre plumes différentes. J'ai pas forcément ressenti le. Je pensais vraiment être alléchée par la lecture parce qu'il devait parler beaucoup de nourriture. Alors c'est un thème qui est. J'allais dire, c'est un fil rouge dans les quatre histoires, mais ça fait pas aussi saliver que d'autres livres que j'ai pu lire où la nourriture était une thérapie, où la nourriture était vraiment un médicament, un art de vivre à la japonaise.
En plus, faut faire attention parce qu'au Japon, les histoires de nourriture parfois elles sont crues.
Oh là là.
Vous avez compris le jeu de mots? Cru, sushi.
Oui, sushi. Allez, okay. Bon, il est tard.
Eh oui, c'est
voilà.
Ça.
C'est du mot 17h
au Japon.
Voilà, 17h57 au Japon, c'est voilà. Ça. Pour nos auditeurs qui vont regarder, hop, ça correspond à quelle heure?
Amis auditeurs, merci de rester sur 48 FM, malgré ces touches d'humour. Voilà, donc en fait, ce sont quatre histoires assez courtes qui valent le coup d'être lues. Ça mêle un peu, il y a beaucoup d'histoires d'amour dedans, mais d'amour à la japonaise. C'est-à-dire qu'on est toujours sur des histoires d'amour, mais sur du sentiment et non pas sur des descriptions. C'est jamais cru, contrairement à ce que Ludo a dit. Je suis même à faire de l'humour comme Ludo. Jamais vulgaire, voilà. Donc c'est un petit livre, c'est des histoires qui font une cinquantaine de pages à chaque fois, qui donnent envie finalement d'aller visiter ces lieux où ils vont, parce qu'ils détaillent les auberges dans lesquelles ils vont, les visites. Je reste sur ma faim. Puisqu'on parle de nourriture, parce qu'il me manque justement ce détail de la nourriture qu'on peut lire dans les autres livres japonais. Malgré tout, c'est peut-être une belle introduction pour quelqu'un qui n'a pas lu d'auteur japonais, où il y a cette lenteur, où il y a ces descriptions très longues. Ça peut être une bonne introduction aux auteurs japonais que d'attaquer par des japonais qui parlent de l'Europe, en fait, des traditions culinaires en Europe. Voilà.
Super, merci beaucoup Valérie, maison d'édition.
C'est chez Piquier.
C'est chez Piquier.
Ouais, voilà.
Ok, super. On va parler maintenant de celui que l'on appelait, grâce à son talent, sa production prolifique et ses techniques, on l'appelait le père du manga, le parrain du manga ou encore le dieu du manga, considéré comme l'équivalent japonais de Walt Disney. Pauline, la vie de Bouddha, Osamu Tezuka, donc l'auteur qui étudia d'abord la médecine avant de se consacrer à la bande dessinée japonaise, qui est considéré comme le père spirituel des créateurs de manga. Alors cette série, c'est le premier que tu vas nous présenter. Pauline propose une biographie... C'est le 2, pardon. Propose une biographie libre... Ben après m'être trompé de prénom dans la dernière émission, voilà. Une biographie librement adaptée de Shakyamuni, reconnu comme étant le Bouddha originel, un manga liant aventure, philosophie, religion, humour et notions historiques.
Alors, Shakyamuni, Siddhartha Gautama, plutôt, non?
Shakyamuni, c'est comme ça.
Alors, pour moi, ils s'appellent Siddhartha Gautama, mais après, peut-être que chez toi, ils s'appellent Shakyamuni.
Après, tu sais, les Bouddhas, ils ont peut-être plusieurs noms, c'est comme...
Mais ça doit être ça.
Avant qu'ils se convertissent.
Tu étais un peu à côté, mais oui... J'ai pas lu le tome 1, j'ai lu le tome 2.
C'est bien, ça change pas.
Bon, première chose, il faut le voir, c'est un énorme pavé. C'est-à-dire que ce bouquin, je l'ai pris pour lire au lit, c'est pas possible. Hein. Tu le portes pas dans ton lit.
Trop dangereux.
Un gros coussin calé sur les jambes pour pouvoir le lire. Et ça vaut le coup de prendre ton coussin et de te le caler sur tes jambes parce que c'est un chouette livre. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Bon, c'est la vie de Bouddha, celui qui est reconnu comme le Bouddha. Moi, j'attaque donc pas au début de sa vie, c'est-à-dire qu'au début de sa vie, d'après ce que j'ai compris, il était noble, c'était un prince destiné à devenir roi. Il a quitté son pays, abandonné ses privilèges pour aller vers la spiritualité. Et donc, moi, j'arrive à ce moment-là, ce moment de l'éveil. De pas avoir lu le 1, je reste un peu sur ma faim, mais on peut attaquer par le 2, ça m'a pas troublé. Il me manquait juste un bout de sa vie, quoi. Donc sur sa vie, on parle souvent, on a parlé dernièrement de bonzes, etc. C'est des beaux moments de bonzes, hein. On saute dans un buisson d'épines, on essaye de se noyer, on s'enterre dans du sable. Enfin bon, au début, Siddhartha était pas du tout pour ce qu'ils appellent donc les austérités, ce genre de pratique là où on se fait souffrir pour atteindre l'éveil absolu. Mais à un moment, il décide quand même de tenter pour voir si ses collègues ont pas raison. Donc voilà, il y a tout ça, il y a plein de choses dans ce livre, il y a plein de choses, et il y a aussi plein de rencontres avec des tas de personnages qui ont participé à son éveil, etc. Mais la grosse particularité et le truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est que c'est du manga genre vraiment classique, avec les grands yeux, avec quand je suis contrariée, je me transforme en cochon. Le bébé qui est le sage, le grand sage du livre, c'est un petit bébé avec une serviette toute dégueulasse, une grosse morve qui coule. Enfin bon, c'est
oui, t'as les codes de manga, mais ouais, sur une histoire,
sur une thématique qui va pas, enfin qui de premier abord va pas du tout avec ça, et du coup ça fait un mélange assez rigolo, et du coup ça rend cette histoire de Bouddha accessible à plein de gens, je pense. À part le côté méga pavé qui du coup pourrait rebuter peut-être un ado, mais sinon ce dessin, ce style, ce vocabulaire qui est utilisé, qui est ultra accessible, limite familier, tout ça, ça fait un truc très rigolo. C'est pas, il se prend pas trop au sérieux et finalement, ben on se dit bon, est-ce qu'il a raison ? On parle quand même de Bouddha, ben oui, il a raison parce que c'est super chouette à lire. On apprend plein de choses, on n'en ressort pas éveillé, hein. Mais
parce que t'as pas sauté dans le buisson d'épines.
Non, derrière, j'ai pas sauté dans le buisson d'épines. D'ailleurs, Bouddha ne le propose pas trop. Hein. Il trouve pas que c'est une idée terrible au final. Il est mieux assis au pied de son arbre à méditer. Mais bref, une très chouette lecture, une très chouette découverte, et je lirai bien le 1. Et je suppose qu'il y aura un 3. Est-ce que...
Mais ça a été écrit, ça a été sorti entre septembre 72 décembre d'accord. 1983. Donc Comic Tome, c'est une revue qu'il avait créée. Donc c'est pour ça que c'est un peu le père du manga, parce qu'en 72, je pense qu'il n'y avait pas trop de dessins.
Et ça fait super moderne.
Eh ouais, c'est super moderne.
C'est rigolo.
Donc non, cet homme est mort.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est peut-être un petit peu.
Oui, il a eu un cancer.
À la suite de sa vie, quand il va comme dispenser son enseignement, c'est ça en fait, qui va se passer.
Non, il y a 14 volumes en fait.
Ah oui. Ah,
et à l'occasion des 90 ans, ils ont sorti une version luxe en 4 volumes. Donc ça, c'est le deuxième.
C'est le 2, donc voilà. Il y en a deux.
Il y en a deux autres. Voilà. Okay. Il y en a deux autres derrière.
Il manquait une suite quand même. Très bien. Ah ben, essayez à lire. Franchement,
ça doit faire une super collection là avec les 4.
Ils sont très beaux, hein.
Ils sont magnifiques.
La couverture est orange et pourpre, un peu. Marron. C'est très beau, très très beau.
Sinon, je vais dire un truc inutile, mais ça se voit que t'as une angine parce que tu tiens ton bouquin à l'envers.
Voilà, merci.
C'est compliqué les mangas.
C'est toujours compliqué. Osamu Tezuka, il a plus de 170 000 pages dessinées au cours de sa carrière. 700 œuvres, 70 séries animées, téléfilms, 120 millions de mangas ont été vendus depuis sa mort en 1989.
Mais ça énorme. M'étonne pas, c'est génial et ça passe tout à fait encore aujourd'hui. Ça, voilà. J'ai pas du tout eu le ressenti années 70.
Il a créé Astro Boy, ce dessin animé, en 1963. Je te dis ça parce que quand t'as ouvert, j'ai vu un dessin avec des gros yeux. Je me suis dit, mais c'est Astro Boy.
Astro le petit robot.
C'est Astro le petit robot.
Voilà. Pyjama,
qui est ressorti il y a quelques années, qu'il avait créé, je sais pas. Non, parce qu'il est mort en 89.
Oui, tu vois, c'est.
Voilà, plusieurs animations étaient en production au cours de
sa mort. De plus en plus, on a des mangas, je ne sais pas si vous vous rappelez sur une émission, mais je pense que c'était encore Par le bout de la lorgnette, on avait parlé des mangas qui se passaient à Pompéi, avec qui était fabuleux et qui donnait justement l'histoire de Pompéi vue par les empereurs romains. Il y avait Auguste, il y avait tout un tas de...
Eh ben oui, on a parlé d'ados il n'y a pas longtemps, c'est un bon moyen de toucher les ados.
Voilà, de faire apprendre l'histoire par...
Merci beaucoup, Pauline. Ah, j'entends ronronner. Ne serait-ce pas Claire qui va nous parler d'Haruki Murakami pour Abandonner un chat, souvenir de mon père. Donc Haruki Murakami est né à Kyoto en 1949. C'est un auteur de romans à succès, mais aussi de nouvelles et d'essais. Il a reçu une douzaine de prix et autres distinctions, traduit en 50 langues, édité à des millions d'exemplaires. Il est l'un des auteurs japonais contemporains les plus lus au monde. Et ce livre que tu viens de nous présenter est illustré par Emiliano Pozzi.
Oui. Alors ce livre, je le conseillerais pour deux types de publics. Un, évidemment, les fans d'Haruki Murakami, c'est un livre très personnel. Et deux, c'est un livre de deuil et de pardon, quelque part, oui. Donc en fait, il parle de son père. Il parle surtout, voilà, de son père et il raconte un peu la biographie accélérée, hein, parce que c'est un livre qui fait qu'une centaine de pages. C'est très joliment illustré, il faut le préciser. Enfin, je trouvais ça assez réussi. Donc, je commence par vous lire un petit extrait. Très rapidement, donc il explique que son père est né en décembre 2017, l'an 6 de l'ère Taisho, etc. Bon, je coupe un peu. Il a donc appartenu à une génération que l'on ne peut qualifier que de malchanceuse.
2017.
Pardon, 1917. J'ai dit 2017.
Tu as dit 2017. Sur son style, ouh, non, il doit être jeune.
C'est le jus d'abricot.
Il a fait son enfant jeune. Ouais. Faut arrêter le jus d'abricot.
Pardon, hein. Oui. 1917. Donc une génération malchanceuse. Alors qu'il était enfant, la démocratie de l'ère Taisho, période d'une paix momentanée, touchait déjà à sa fin, bientôt supplantée par la terrible dépression de l'ère Showa, elle-même suivie par le bourbier de la guerre contre la Chine et finalement par la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ce fut le début de la guerre. Le début de l'après-guerre, marqué par un immense désordre et une terrible pauvreté. Il fallait se battre pour survivre. Mon père, lui aussi, a fait partie de cette malheureuse génération. Donc, il commence par expliquer ça. Et puis ensuite, on comprend qu'il avait une relation, en fait, très distendue avec son père, qu'il a grandi auprès d'un étranger, qui était très peu loquace, très renfermé. Et en tant qu'enfant, il avait presque même un peu peur, en fait, de cette personne, rare dans la maison, qui était un peu une ombre quelque part. En plus, il n'avait pas de mère. Et puis, adolescent, il a nourri même une colère parce que, voilà, il était quasiment orphelin et je pense qu'il aurait besoin d'une relation forte avec son parent. Et en fait, voilà en quoi je dis que c'est un livre de deuil parce que, à l'âge adulte, quand il écrit, là, il a peut-être 50 ou 60 ans maintenant, Murakami, et en fait, il fait tout un travail de rétrospectif à l'âge adulte de finalement de ce qu'a traversé son père. Et en fait, il comprend que son père, en fait, c'est quelqu'un de terriblement blessé par les événements historiques. C'était quelqu'un qui était passionné de poésie, de haïku, d'une personnalité très sensible, qui a été élevé dans un temple. Donc, voilà, avec la philosophie bouddhiste. Donc la non-violence, etc. Et on l'a enrôlé de force dans de multiples guerres. Il a vu des horreurs et raconte le peu d'infos que son père a donné. Il les raconte. Effectivement, on comprend très bien que ça puisse en traumatiser sur de très longues périodes. Et alors, il y a des passages absolument affreux où, par exemple, il explique... Durant cette période en Chine continentale, donc où son père est enrôlé comme simple soldat, il n'était pas rare que l'on ordonne aux nouvelles recrues et aux réservistes d'exécuter les prisonniers chinois afin de les habituer à tuer. Ouais, c'est affreux. Et donc il a fait des recherches et il y a un certain Yukata Yoshida qui explique dans son livre « Les soldats japonais ». Shigeru Fujita, commandant du 28e régiment de cavalerie de fin 38 à 39, se souvient avoir donné des instructions suivantes à ses hommes afin d'habituer les soldats à combattre sur le front, les forcer à tuer est le moyen le plus rapide. Autrement dit, c'est une façon d'éprouver leur courage. Et à cette fin, on peut utiliser des prisonniers comme de nouvelles recrues. Seront enrôlés en avril, il serait nécessaire de saisir l'occasion pour les préparer à se montrer courageux au combat. Et en vue de cet objectif, tuer à l'arme blanche est plus efficace que d'utiliser un fusil. Voilà. Et si vous voulez, c'est un travail... En fait, je pense qu'il fait un travail de deuil, hein, de quelque part... de son père qu'il a perdu depuis des années, mais aussi un travail de réconciliation en fait avec celui-ci. C'est deux personnes qui ont vécu ensemble qui se sont pas vues en fait. Et voilà, je trouve ça intéressant. C'est donc pourquoi je disais deux types de public en dehors des fans de Murakami, mais peut-être pour les gens qui ont vécu quelque chose de particulier avec un parent qui n'a pas été là ou pas comme ils auraient aimé, une relation compliquée, distendue. Je trouve que c'est un beau livre qui peut parler de ça, quoi. Qui peut parler du pardon, de la réconciliation, de qu'est-ce que c'est que devenir adulte et de comprendre ses parents.
Deux questions. Claire, le livre est assez petit, oui, et assez court. Il y a pas mal d'illustrations. Est-ce que ça laisse le temps d'accéder justement à tout ce chemin de pardon? Et est-ce que tu t'attendais à ça? Avec le titre. Ouais,
non, je m'attendais pas du tout à ça. Oui, le titre, ça s'appelle Abandonner un chat. Alors effectivement, il commence par une anecdote, hein, où un matin, quand il est petit, il a 4-5 ans, ils abandonnent un chat sur une plage. Alors c'est assez traumatisant. Quand même, on se dit. Avec son père, en plus, qui est très froid, alors là, qui dépose le chat. Il y a pas trop d'explications. Il est petit, il ose pas trop. Et puis il rentre chez lui et le chat est de retour. Et là, il raconte quand même qu'il se souvient avoir lu dans le visage de son père de la fierté quelque part de ce chat qui avait su être plus rapide qu'eux, qui était à bicyclette.
C'est l'entraînement, quoi.
Ouais. Et en fait, tout ce que je vous dis là, non, en fait, ça, c'est le travail du lecteur, si vous voulez. Tout cet aspect de, on lit la réconciliation, c'est le lecteur qui fait ça. L'auteur, il raconte pas ça. L'auteur, il raconte vraiment la vie de son père. Ouais. Mais on comprend bien qu'à travers toute cette recherche de détails qu'il a fait à l'âge adulte, que c'est ça, en fait, qu'il recherche. C'est comprendre son père.
Et au-delà de ça, Claire, tu l'as bien expliqué en disant qu'il n'avait pas de mère, qu'il avait un père un peu absent. Parmi les leitmotifs de l'œuvre abondante de Murakami, l'un des plus représentés et des plus constamment étranges est celui de l'identité. Oui. Il pose dans toute son œuvre la question « qui suis-je ?» avec une connotation quand même d'angoisse. Et alors, quand il a écrit ce livre, il avait dépassé la 70 ans. Oui. Et l'interrogation se fait de plus en plus explicite dans l'œuvre de Murakami, plus anxieuse aussi, jusqu'au point d'introspection qui l'oblige à recourir à l'autobiographie qu'il faisait pas forcément avant. Et l'écrivain assume son « je » en essayant d'exorciser une relation conflictuelle avec le père via des souvenirs de petite enfance.
Ah oui,
au-delà de tout ça, c'est qui suis-je finalement, qu'on retrouve dans toute son œuvre. Et bien sûr, avec un père absent, une mère qu'il n'a pas connue.
Oui. C'est un beau livre, c'est émouvant. Hein, c'est assez cru, si je peux reprendre l'adjectif. Enfin, c'est livré tel quel. Le travail, vraiment, c'est le lecteur qui le fait.
Merci beaucoup. Je te demande la maison d'édition aussi.
Alors là, oui, c'est Bellefond.
Bellefond. Allez, on va continuer à parler de chats avec Hiro Arikawa, les mémoires d'un chat Hiro Arikawa qui est né en 72 à Kochi. Donc c'est le livre que j'ai lu, c'est l'histoire d'un petit chat errant, livré à lui-même, qui est nourri par un jeune homme qui s'appelle Satoru. Un accident de voiture, une voiture qui renverse le chat et qui va tout bouleverser. Satoru qui lui donne à manger tous les matins là où le chat dort sur un capot d'une voiture. Le chat se blesse, il vient miauler, hurler pour que le Satoru sorte et vienne l'aider parce qu'il y a une fracture ouverte de la jambe, tout ça. Satoru le voit, il l'amène chez le vétérinaire. Le chat peut pas bouger donc il le garde chez lui et à son appartement et finalement il va garder ce chat. Il le nomme Nana. Nana pourquoi ? Parce qu'il a une queue en forme de 7. 7 en japonais c'est Nana. Un chat du bonheur, 7 numéro du bonheur. Et ce chat lui rappelle Hachi, un petit chat auquel il était attaché quand il était jeune, qu'il avait récupéré, qui avait aussi 3 taches comme Nana, qui avait Hachi, je crois que ça veut dire 8, parce qu'il avait une queue en forme de 8. Enfin, tout lui rappelle ce chat. Voilà, c'est pas compliqué. Mais pour des circonstances indépendantes de sa volonté, Satoru se voit au regret de se séparer de Nana après 5 ans de vie commune. Donc là démarre un road trip à travers le Japon où Satoru et Nana vont rendre visite à 3 amis en espérant de faire adopter Nana. 3 amis qui ont des âges différents, il va aussi aller voir de la famille. Et en fait, avec ce road trip, on va assembler des puzzles de la vie de ce Satoru. Donc ça commence par son ami d'enfance, quand ils avaient 8 ans, qui ont redécouvert Hachi, le premier chat, savoir qui va le garder. Ils ont fait en sorte d'essayer de le garder. Son copain voulait, son père voulait pas. Donc Satoru dit à son copain, viens, on va faire une fugue, comme ça ils vont voir qu'on est vraiment amoureux du chat, tout ça. Alors là, ce branle-bas combat, on le cherche partout. Ils viennent voir, ça se passe mal, parce que le père de son ami, il dit, mais non, mais moi, je veux pas de chat, pourquoi il fait une fugue en plus? Attention, il va se suicider, ce qui est pas vrai, parce qu'ils sont dans un immeuble. Donc, ils descendent, ça se passe très mal, il peut quand même garder le chat. Et donc, ils discutent de ça, de leur jeunesse, de leur adolescence, quand ils se sont perdus de vue, quand ils se sont retrouvés. Et quand, au final, cet ami d'enfance peut pas garder le chat, il va voir quelqu'un d'autre. Donc on retourne dans le passé de ce Satoru, où donc certains l'ont connu enfant, certains d'autres adolescents, étudiants, et on voit la relation avec toutes ces personnes, ses amis, sa famille qu'il va retrouver, son histoire compliquée, et on se demande finalement pourquoi Satoru, qui aime tant ce chat, lui cherche une nouvelle famille. Flûte, mais garde-le ce chat. Et ça, bon sang, mais ça je vous dirai pas parce qu'on le découvre à la fin, c'est un peu l'intrigue de l'histoire. Alors c'est un livre sur l'adoption, sur l'amitié, sur la résilience, sur la générosité, c'est un très beau livre, c'est très poétique. Après, je vous avouerai que la première confrontation avec un chat narrateur, ça m'a posé problème, ça m'a un peu dérangé. Et c'est déconcertant aussi parce que sur une même page, on peut retrouver une narration à la première personne du chat, un point de vue omniscient, puis à une focalisation interne d'un des autres personnages. Donc, faut vraiment suivre. Des fois, et c'est un rythme assez long, comme souvent les livres japonais. Donc, ça peut être aussi gênant suivant le style de livre que vous aimez lire. Mais voilà, c'est un très beau livre, je le conseille. Et donc, chaque partie, c'est les prénoms d'amis auxquels Satoru va rendre visite. Voilà, c'est assez simple et clair. Et je vous le conseille, c'est aux éditions Piquier. C'est pas ce livre, non, ce n'est pas aux éditions Piquier. C'est chez Actes Sud. Voilà. Marlène. Marlène est là.
Oui.
Marlène est là. Marlène est là. Les Marlène. Temps retrouvés, Kei Fuji et Kokoro Itai, deux tomes sur. C'est un roman graphique sur une rencontre amoureuse, pas du troisième type, mais du troisième âge.
C'est ça. Comment retomber amoureux à 70 ans, à peu près. Alors, vraiment, très joli. Donc, à la base, c'est annoncé comme un manga, sauf que ça se lit comme une bande dessinée toute classique, en fait. Je vais commencer par parler de ça. Les images sont toutes douces et en fait, ça va, mais totalement avec le thème. C'est-à-dire que du coup, c'est soit sur des grandes pages, soit sur des demi-pages, mais c'est des tons pastels. Et on voit tout de suite qu'il y a eu de l'aquarelle, en fait. Enfin, que ça a été dessiné avec, de la peinture à l'eau, c'est sûr. Voilà. Et donc, ce qui transparaît dans toute la, ouais, je vais dire la bande dessinée, dans toute la bande dessinée, c'est du coup les émotions. Les émotions qui se lisent sur les visages, en fait, on les voit grâce au dessin. C'est tellement tout doux et les traits sont, alors notamment au niveau des yeux, c'est vraiment on voit les émotions jusqu'au bout, on sent les larmes quand il y a des larmes, on sent de l'attirance quand il y en a, enfin c'est vraiment du coup les dessins ils portent vraiment bien l'histoire. Donc l'histoire, on a deux personnages au début qui ne se connaissent pas du tout et qui sont veufs tous les deux. Une dame qui s'appelle, alors si je dis pas de bêtises, c'est Tokoto ou Kotoko, à chaque fois je me trompe. Voilà.
C'est pas pareil, attention.
Non, donc je vais.
Sinon, Valérie.
Tu savais ce que ça voulait dire
Ouais, non, je sais pas.
Sinon, Valérie, on l'appelle Leriva et c'est plus pareil.
Du coup.
C'est mignon aussi.
C'est mignon, c'est vrai.
Et le monsieur, c'est Ipei. Ça, je suis sûre. Ouais, Kotoko. Voilà, je confirme. Voilà, et donc ces deux personnes-là sont encore dans. Surtout au Japon, dans le. Dans les cérémonies de rappel à chaque fois d'un défunt qu'on a aimé, donc chaque année ils refont la cérémonie, ils ont les photos tous les matins, ils parlent à leur défunt comme s'ils étaient encore là. Enfin c'est très voilà, c'est cette culture qui veut ça. Et du coup au tout début c'est ça. Et puis ils se croisent par hasard. Alors au début ils ne parlent pas forcément et puis après ils commencent à se découvrir. Et puis ils tombent amoureux tout doucement quoi en fait. Et je trouve ça très beau. Et sauf que après au milieu alors je sais plus dans quel tome c'est, et ben un gros coup de colère pour moi. Je dis mais c'est pas possible. Mais c'est pas normal. Donc leurs enfants respectifs s'opposent à leur amour.
Ah
et
non.
Vont même jusqu'à s'opposer à leur mariage.
Ouh.
Puisque du
sale gosse.
Du coup Ipei tellement amoureux dit à sa nouvelle femme en fait quelque part que qu'il a vraiment envie de passer les derniers jours de sa vie avec elle et que pour lui se marier c'est important. Alors au début elle est totalement réfractaire parce que ça lui fait peur, qu'est-ce que vont dire les gens, ça se refait pas, une fois qu'on a été marié on l'est plus et on jusqu'à notre mort on doit vénérer l'ancien époux ou l'ancienne femme qu'on avait. Voilà. Donc du coup, c'est le quand dira-t-on, c'est donc chacun ils ont tous les deux un fils en fait et c'est leur fils respectif qui vont tout faire pour les en empêcher. Sauf que en fait, ils ont une bande d'amis de leur âge qui eux par contre sont à fond avec eux et qui vont tout faire pour les aider à se marier quand même. Et il y a voilà, tout un tas de rebondissements. Il y a deux tomes et dans le second, c'est ils réussissent à se marier et ils partent. Voilà. Et alors, je sais pas comment faire parce que j'ai vraiment très très envie de vous parler de la, parce que en fait,
tu veux nous raconter la fin.
Non,
non mais sinon,
il y a beaucoup de bulles sans texte où tout se passe par l'image.
D'accord.
Et la fin.
Alors,
c'est la même chose.
Alors, on va demander à nos auditeurs qui veulent lire le livre de se déconnecter pendant 30 secondes.
Je vais pas dire ce qui se passe. Mais, sur la fin, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est sur 100 textes, tout se passe par les images, et c'est beau. Et en fait, ça donne même envie de pleurer quand on a lu toute l'histoire, parce que c'est magnifique. Surtout que tout passe par les regards, et que...
Ne regarde pas Valérie.
J'ai vu.
Ah, tu as vu.
Je viens de voir.
Moi, c'est ça, là. Ah, oui. C'est ça, là, en fait. que je trouve magnifique.
On voit un œil ouvert et un œil fermé.
Mais c'est vraiment beau. Moi, à la fin, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui. Il a réussi à me faire pleurer. Ouais.
Enfin, un œil ouvert, un œil fermé, les gens vont pas comprendre. Voilà.
Parce que ça, c'est quand t'es bourré que tu veux conduire. Mais ça, c'était avant.
Mais
ça, c'est ça.
Non, c'est le couple qui s'endort en se regardant face à face, les yeux dans les yeux, et le reflet de l'un reflète dans l'iris de l'autre, avec des images en aquarelle absolument merveilleuses.
Ouais. Et les feuilles du
les fleurs du cerisier
qui tombent sur eux parce qu'ils avaient dit.
Mais voilà, on a raconté
la
fin.
On attend le printemps. Non, mais on attend le printemps parce qu'ils adorent regarder tous les deux les cerisiers en fleurs chaque année.
C'est tellement japonais. Un ami.
Et c'est beau. Enfin, vraiment, c'est très, très beau. Enfin, c'est très touchant, voilà. Donc, c'est une jolie histoire d'amour. Comme ça a l'air magnifique. Quand on est amoureux à 70 ans, ça
a l'air très optimiste parce qu'on commence sur une pochette qui évoque l'automne et ensuite, on finit sur le printemps.
Oui. Parce qu'ils se rencontrent à l'automne, effectivement. C'est l'automne de leur jour aussi, donc c'est très voilà. Et puis vous savez comment ça marche au Japon, du coup, ben, même dans le bouddhisme et tout ça, on croit beaucoup à tout ce qui est réincarnation. Donc l'automne de leur vie se termine, mais le printemps de la nouvelle,
printemps de l'amour,
c'est très beau. C'est vraiment une jolie bande dessinée.
Ah bah si j'avais su, j'aurais fini l'émission par toi parce que ça aurait été une fin formidable.
C'est très
la rencontre entre Kokoro Hirai et Kei Fuji, le scénariste et l'illustratrice, est intéressante. Kei Fuji, il est né en 71 à Kobe. Il a créé une. Alors, je recherche dans mes notes que je n'ai pas noté. Il a créé une maison d'édition ou un comics ou quelque chose. Et la jeune Kokoro Hirai, qui est née en 80, soit 9 ans après, donc qui n'est pas bien plus jeune que lui, qui était passionnée de dessin depuis l'enfance, qui allait faire des études dans la bande dessinée, et puis un voyage d'études au Festival d'Angoulême. Et là, elle a vu toutes les BD qu'elle ne connaissait pas, elle était que manga, et elle a dit, mais moi je veux faire ça. J'adore Kei Fuji, et elle lui a écrit pour travailler avec lui, en lui envoyant des dessins. Et du coup, depuis cette époque, ils ont fait plein de livres ensemble tous les deux.
Mais faire plutôt rare dans la BD japonaise, c'est coloriser.
Oui. Oui, c'est vrai.
Mais et puis c'est vraiment doux, mais ça illustre. Mais faut vraiment la lire et en fait on la lit en double sens quoi. On peut lire juste les couleurs, les images sans le texte en fait. On peut comprendre. Enfin, c'est vraiment le double sens. Enfin, l'histoire est la même, mais on peut la lire de plusieurs façons. En fait, c'est vraiment et puis c'est doux. Enfin, vraiment, je la conseille. Mais
voilà, il me semble que c'est 2017 ce livre. Ils ont eu la recommandation du jury du célèbre Japan Media Arts Festival et en 2018 le prix ACBD Asie.
Bah, le tome 2, il est marqué 2020, donc peut-être que oui.
Oui, ça doit être ça.
Sur l'édition française. La maison d'édition, c'est Latitude.
Super.
Voilà. C'est vraiment. Voilà. C'est très joli.
Merci beaucoup, Marlène. On va faire une pause musicale demandée par Valérie avec Nathalie Imbruglia. Tu peux nous la chanter si tu veux.
Et attends, coupe et après je monte sur la table et je chante très fort en karaoké à la japonaise.
Vous savez comment ça se passe. On écoute des morceaux de gens du pays. Donc,
du punk
on va écouter. Non, j'ai trouvé plein d'artistes sympas. Il y a plein d'artistes hip-hop, électro, tout ça. Mais là, on va écouter Yeye, qui est une guitariste et chanteuse japonaise, qui est accompagnée de Bassi, un rappeur japonais. Alors, je vous donnerai pas le titre parce que je ne lis pas le japonais. Mais on va écouter ça. On se retrouve de suite après. Thank you.
背中のファスナー上げてあげる朝なんてことない仕草からスタートピーピー夜間が歌う、いただいたほうじ茶入れる、通りじゃ子供たちが甲高い声で叫び走り回る、あれは言い過ぎたな、絶妙なタイミングで謝る、また欲しがる花丸、でも時々泥沼にはまる、思わず湯気で眼鏡が曇る、こらえきれずに君が笑う、そんな愛くるしい日々を綴る、昨日今日明日と強く結ぶ、季節は少しずつ移る、暮らしは必然的に続く、
嘘払いで顔を包んで目に見えない速度で進んで素直でありたい、照れながら向かう、咲いてるだけで素晴らしい、
pour cette chanson de Yéyé et Basie. Vous avez aimé ?
J'aurais préféré Nathalie Imbruglia, mais ça ira.
Je sais bien. Rock voisine ?
Ah, cœur avec les doigts.
Et ouais. Allez, ben Valérie, je vais te laisser la parole avec Aki Shimazaki Mai Mai, L'ombre du chardon, le tome 5. Toi, tu commences par le tome 5, hein,
oui.
Le dernier.
Oui.
C'est une pentalogie, L'ombre du chardon, comprenant Azami en 2014, Ozuki en 2015, Suizen en 2016, Fukinoto en 2017 et Mai Mai en 2018. Donc, c'est l'histoire de Taro, artiste sourd, muet et métis, qui vient de perdre subitement sa mère. Une jeune fille venue lui présenter ses condoléances suscite en lui un trouble profond, comme un amour naissant, comme un précieux souvenir.
C'était magnifique. Et en fait, par coïncidence, j'errais dans une librairie albigeoise et je tombe sur Mai Mai. Et je me dis, ah, c'est rigolo, j'avais lu une pentalogie il y a quelques années de Aki Shimazaki. Et je me suis dit, tiens, elle a refait un petit livre. Faudrait pas que ce soit une pentalogie puisque je vais en prendre qu'un. Il n'y en avait qu'un dans la librairie. Bon, je l'ai acheté et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, mince. Il manquait des choses, mais c'était pas grave parce que j'ai eu une petite histoire courte, absolument magnifique, qui m'a donné malgré tout envie de lire les quatre autres. C'était Le poids des secrets que j'avais lu il y a quelques années, dont j'avais présenté d'ailleurs, je crois, à l'émission, un petit coffret comme ça de Aki Shimazaki qui avait écrit 5 livres où on avait les histoires de une histoire de vie de la personne A qui rencontrait la personne B, C et D, et après chaque livre racontait l'histoire de A, de B, de C ou de D avec son point de vue. Donc là c'est un peu pareil, on a peut-être un peu le dénouement, mais encore que je ne suis pas sûre puisque je vais lire les quatre autres. C'est le Japon dans toute sa splendeur, dans les relations, dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'accès à la nourriture. L'histoire en devient presque secondaire. Elle est un peu originale dans le sens où Taro, il est métis, donc il est sourd et muet aussi. Mais finalement, le fait d'être sourd et muet, on a l'impression, cause moins de problèmes à sa vie de tous les jours que le fait d'être métis. Donc là, c'est un pan du Japon qui est peu... peu soulevée dans le livre, c'est justement cette exclusion de la personne qui est différente. Et alors métisse, attention, hein, c'est le papa serait espagnol, donc on n'est pas sur une couleur de peau, on n'est pas, enfin c'est vraiment
c'est pas un soldat américain qui était basé au Japon.
Non, c'était le père aurait été espagnol, donc il y a une énigme là-dessus. Donc je pense que dans l'ombre du chardon, dans l'un des 14 volumes, on doit avoir certainement l'histoire. Alors la mère tenait une librairie de livres rares et d'occasion. On sait qu'elle a rencontré cette personne, mais la grand-mère découvre que qu'elle est grand-mère, l'enfant est déjà né, sa fille était partie. Enfin, il y a pas mal de mystères. Donc notre héros, Taro, rencontre quelqu'un qui vient pour présenter ses condoléances. Donc la jeune fille était censée connaître la mère. Il y a pas mal de mystères. Il y a une histoire d'amour absolument fabuleuse qui se noue entre Taro et cette jeune femme qui vient lui présenter ses condoléances. Il y a le titre Mai Mai, c'était comme un poème à la fois entre le poème et l'haïku que lui chantait sa mère. Et c'est la seule chose dont il se rappelle vraiment de sa mère, c'était ce petit poème qui était signé, en fait, puisque au début où on lit le livre, on découvre qu'il est, si on n'a pas lu la quatrième de couverture, qu'on ne sait pas qu'il est sourd et muet, on le découvre là, en fait, que ce poème était signé, n'était pas parlé, enfin n'était pas parlé avec la voix, et ça amène beaucoup de poésie à cette belle histoire. Donc il y a l'histoire d'amour entre Taro et sa grand-mère qu'il a élevée, puisque la mère en plus avait des gros problèmes d'alcool, de drogue, tout ça, et donc on a cet amour de petit-fils à grand-mère. On a ce côté très japonais sur le respect des traditions, des choses comme ça. C'est un livre qui est court, qui est certes, qui fait partie d'une pentalogie, tu me dis si c'est pas ça le mot.
Pentalogie.
Mais qui peut se lire tout seul. Et une rencontre amoureuse entre Taro et cette jeune fille, mais qui moi, m'a pendu au trip, quoi. C'est très court. Ils racontent leur première fois aussi. C'est très émouvant, mais j'en avais les poils des bras qui s'hérissaient tellement c'était.
Comme Claire.
Oui, mais là, c'est le froid.
C'est le froid. Nous sommes que le 31 mai en Lozère, donc
oui. C'est ça. Bah, la semaine dernière, il faisait 35. Hein. Oui. Bon, certes, il fait 5 aujourd'hui.
Même pas, voilà, nous sommes le 25 mai en enregistrant cette émission, parce qu'aussi bien le 31 mai, il va faire 30 degrés, et les gens vont se dire, mais pourquoi il a froid ?
Faut plus parler de météo ni rien à ces émissions, parce qu'on fait croire qu'on est en direct, alors que non.
Ou de rendez-vous.
Oui, voilà, venez demain, hier, avant-hier. Voilà, donc c'est vers Aki Shimazaki à ce don pour transmettre avec des mots très simples des. Alors on a cette longueur qu'on peut avoir comme Ogawa Ito que tu vas nous parler, dont tu vas nous parler, Claire. Mais les vies sont tellement rythmées justement par toutes ces histoires, par ces secrets de famille, parce qu'on a encore ça, que ça donne vraiment. Je sais pas, ça a vraiment une résonance particulière qui est hyper agréable à lire et qui donne envie de même si on a, je pense, la chute de l'histoire, ça n'empêche pas qu'on a envie de découvrir le préquel, en fait, de ce dernier tome. On a envie, voilà, de savoir pourquoi, comment, mais voilà, il y a beaucoup d'intrigues et c'est absolument fabuleux. Je me suis délectée de cette lecture.
Voilà, en plus 5 livres, ça doit venir petit à petit, et là t'arrives à... c'est l'explosion, c'est la fin.
C'est le nirvana.
Aki Shimazaki, c'est une écrivaine québécoise qui est née à Gifu au Japon en 54. Elle est immigrée au Canada en 81, elle vit à Montréal depuis 91, elle écrit en français. Et ses livres ont été traduits en anglais, japonais, serbe, russe, italien, portugais, allemand, hongrois... espagnol.
Alors c'est peut-être pour ça que la traduction est pas mal si c'est écrit déjà en français, parce que
ce n'est pas une traduction.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est le sur un autre book club avec des anglophones à qui j'ai fait lire Ogawa Ito. Ils n'ont pas senti cette poésie justement du Japon, et donc en conclusion on a décrit la traduction.
C'est le summum de la poésie, on va
oui,
en parler
priori,
dans un
oui, mais a priori, traduit en anglais, c'est. Il y a pas. On en parlait dimanche soir, c'était le restaurant de l'amour retrouvé. Et comment j'avais trouvé très poétique, très beau. Et eux n'avaient pas. Et quand on a discuté, ça venait vraiment de la traduction. Donc peut-être que là, Aki Shimazaki, c'est le fait qu'elle ait écrit directement en français, où elle a pu nous faire passer autant d'émotions.
Merci beaucoup. On est chez Babel.
Chez Babel, voilà. Une petite pentalogie, mais vous pouvez aussi l'acheter en un.
Oui, et la pentalogie dont tu parlais tout à l'heure, je l'ai achetée de cet auteur, mais je ne l'ai jamais lue.
L'Ombre du Chardon ?
Non,
Le Poids des Secrets.
Le Poids des Secrets.
Mais c'est moi qui te l'avais prêté.
Je l'avais acheté.
Je vais te le rendre.
Non, je l'ai chez moi aussi. L'avais acheté et je ne l'ai jamais lu.
Mais tu devrais.
Oui, mais je vais m'y mettre.
Très, très, très bien, Le Poids des
Secrets. Ça y est, là, j'aurai plus de livres à lire pour cet été. Ouais. Pauline, mon premier rêve en japonais de Camille Sae Royer est une illustratrice et autrice franco-japonaise qui réside à Paris, qui est née en 1997 d'une mère japonaise. Après avoir passé en 2014 son diplôme de japonais, elle intègre la classe préparatoire des Beaux-Arts de Paris, puis entre à l'école Estienne en illustration. Elle fait en 2016 un stage à Tokyo chez l'illustrateur Hideki Tanaka avant de rejoindre les Beaux-Arts d'Angoulême. Durant ces deux ans, elle travaille en parallèle sur sa première bande dessinée, Mon premier rêve en japonais, qu'elle avait initié à Estienne pour son diplôme de fin d'année. Et du coup, elle en a fait un livre, un roman graphique en 2019, où elle nous parle de ses origines japonaises.
Voilà, où elle nous parle, alors pour moi pas forcément, mais bon, tu vas dire que je te contredis.
Tu fais exprès.
C'est pas forcément de ses origines japonaises, mais plutôt de sa vie en tant que franco-japonaise, peut-être en tant que petite fille franco-japonaise, puisque donc ouais, sa mère est japonaise, son père est, je suppose, du coup français, et c'est sa vie de tous les jours. Donc c'est un livre où il se passe pas grand chose, mais ça va avec le thème, je trouve, puisque c'est des journées classiques dans la vie d'une enfant avec une culture japonaise. Donc elle a des jeux d'enfants, elle joue à la poupée, elle joue avec les copines, elle a des cauchemars d'enfants, elle voit des monstres, elle a peur des mots qu'elle entend, elle a peur des psychopathes, c'est une petite fille, et en parallèle elle apprend à écrire le japonais, à parler le japonais, et tous les soirs, sa mère lui lit des contes japonais. Et c'est là qu'est la particularité de cette BD, pour moi, c'est que tous ces moments de contes, on passe d'une BD à plus un format, on va dire, album. C'est-à-dire que le conte est inclus dans la BD, même le dessin change. Donc ça, c'est assez sympa. C'est un peu court à mon goût. J'aurais bien aimé qu'elle aille plus loin dans ce truc du conte inclus dans la BD, qu'on est vraiment, parce que du coup le conte là, il est en deux secondes, il est passé. J'aurais bien aimé qu'elle prenne plus de temps, parce que je trouvais que le procédé était assez sympa. Donc c'est une mignonne petite histoire, et ce petit côté d'inclure les contes dans la BD, c'était assez sympa. Après, c'est une petite fille qui vit des choses que tous les enfants vivent. Rien de bien particulier dans l'histoire, à part cet aspect.
C'est biographique.
Voilà, c'est biographique.
On passe du noir et blanc à la couleur, je vois.
Oui, et ben quand on est dans les contes ou quand on est dans les rêves, quand on sort de la réalité, en fait, on passe du noir et blanc à la couleur. Donc le noir et blanc, c'est carrément du crayon papier. Hein, c'est et quand
le noir
rêve,
et blanc, c'est la vraie vie ou c'est
C'est la vraie vie. Ah. Ouais.
Donc
c'est
étonnant. Il vaut mieux rêver, quoi.
Il vaut mieux rêver. Oui. Et pourtant, ses rêves ne sont pas toujours beaux. Hein. C'est vraiment une petite fille comme toutes les petites filles. Elle voit, quand il y a de la couleur, c'est des monstres. Quand il y a de la couleur, c'est c'est des choses qui font souvent peur. En plus, la relation entre ses parents est pas terrible parce que le Japon manque à sa mère. Donc, elle est inquiète. Elle a des soucis de petite fille. Donc, un joli livre avec des jolis contes que j'aimerais bien découvrir beaucoup plus, notamment cette histoire de la petite fille qui avait une assiette sur la tête.
Pourquoi ?
Eh bien, je sais pas, j'aurais bien aimé que ça dure plus. Elle a une assiette sur la tête parce que sa mère lui a mise.
Pourquoi elle a une assiette sur la tête ? Ah, d'accord.
Et qu'elle ne s'en va plus. Et elle devient une pestiférée jusqu'à ce que l'assiette tombe.
D'accord.
Qu'elle épouse un prince.
Tiens, on va faire ça à midi à table. On va te mettre une assiette sur la tête, Valérie.
Une assiette de tapas.
De tapas. De sushi.
Les dessins sont très beaux. Moi, j'aime beaucoup celui de les dessins de l'assiette, justement. Là, je trouve ça très, très joli.
C'est chez qui, Pauline ?
Futuropolis.
Merci. Allez, Ito Ogawa est née en 73 à Yamagata. C'est une écrivaine japonaise originaire de cette ville. Elle se rend à Tokyo pour poursuivre des études de japonais classique à l'université. Elle commence sa carrière d'auteur en écrivant des chansons et des livres illustrés pour les enfants. Et dans la papeterie Tsubaki, elle présente l'histoire d'Atoko, 25 ans, qui est de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Tiens donc.
Alors, on ne juge pas un livre d'après sa couverture, mais si, un petit peu quand même.
Ah, parce que... Là, on a le droit, ce coup-ci. Ah, ouais.
C'est chez qui, d'ailleurs ?
C'est chez Piquier.
Piquier encore.
Toujours. Quand même, quand on l'a sous les yeux, on ne peut pas ne pas être attiré. Enfin, en tout cas, je pense que quand on est une femme, ça vise peut-être un peu plus un public féminin, encore que... Je pense que ça peut, voilà, donc une belle couverture faite à quoi d'ailleurs, je sais pas, enfin avec des couleurs très vives.
Ça paraît de l'huile peut-être, hein.
Ouais, ouais,
l'huile sur toile.
Et voilà, donc on plonge dans le quotidien.
Tu n'es pas d'accord, Pauline.
On a besoin d'un professeur d'art plastique. Non,
ouais, voilà. Ce n'est pas de l'huile.
Bon,
merci,
en tout cas,
Pauline.
Ça. Moi, je sais pas, hein, mais en tout cas, c'est
un crayon de couleur de bonne qualité.
Oui, très pigmenté et très cher.
Voilà, c'était une chronique sur les premières de couverture. Merci beaucoup, Claire.
C'est con parce que le livre était bien, je suis sûre.
Ouais, justement, j'avais envie de vous en parler. Donc, il illustre une devanture de papeterie telle qu'on peut les vivre au Japon. Donc, on rentre dans le quotidien de Atoko, qui a 25 ans et qui... après avoir vécu plusieurs années à l'étranger et notamment ses études, revient au Japon et habite dans la maison de sa grand-mère qui l'a élevée, puisque elle aussi est orpheline. Enfin, elle a une mère mais qui ne l'a pas élevée. Le père, on n'en parle pas, on sait même pas. Donc voilà, bon, oh, voilà. Élevée par la grand-mère, une femme très stricte, très droite, avec beaucoup de principes, le respect des anciens, des valeurs, de la tradition. Vraiment, c'est fondamental dans l'éducation de cette petite fille qui en a aussi malheureusement souffert, puisqu'elle aurait aimé aussi qu'il y ait un peu plus de place pour les sentiments, pour la joie de vivre, pour la spontanéité. Et elle aussi, à l'âge adulte, elle se rend compte et à travers tout ce livre que finalement sa grand-mère l'aimait et que tout ce qu'elle lui a transmis, c'est aussi de l'amour, parce que c'est des connaissances, parce que c'est des choses ancestrales, c'est un savoir très particulier, je vais en parler, et que tout ça, ça demande du temps, ça demande de la rigueur, et elle ne le comprend qu'à l'âge adulte. Et alors, ces connaissances, c'est quoi? En fait, c'est un métier. Elle n'est pas seulement libraire, elle vend, des fournitures, des cahiers, des crayons, mais elle est surtout écrivain public. Et alors là, on est vraiment tout dans la saveur du Japon, parce que sur la devanture de la boutique, on n'indique pas qu'on est écrivain public, puisqu'il ne faut pas s'attirer d'honneur. Donc c'est tout par bouche à oreille que son activité d'écrivain public fonctionne.
Alors qu'est-ce qu'un écrivain public
Alors un écrivain public, au Japon en tout cas, c'est assez particulier. Je pense qu'on n'a pas tout à fait la même définition chez nous. Les gens viennent la trouver pour des raisons précises, parce que eux en tout cas sont empêchés d'écrire un message, parce qu'ils sont dans la douleur d'une perte, d'un deuil, donc trop affectés pour pouvoir bien rédiger un message, parce qu'ils sont dans une situation inconfortable. On a une personne qui vient la trouver parce qu'il divorce, sa femme refait sa vie avec un autre homme, et donc il veut écrire une lettre aux personnes aux invités de son mariage, pour s'excuser de ce divorce, puisque les invités viennent aussi bénir le mariage. Et donc on envoie des lettres en s'excusant, parce que voilà, les invités avaient fait confiance à ce couple qui finalement a failli. Donc vous voyez un peu la complexité des relations sociales. Et alors en plus, il sait pas comment s'y prendre pour expliquer ça, donc il fait appel à l'écrivain public. Voilà, il y a aussi une petite fille, ça c'est mignon, qui a, je sais pas, 5, 6, 7 ans, je sais pas trop, qui aime beaucoup sa maîtresse et qui veut lui dire, mais elle sait pas bien écrire, parce que elle maîtrise à peine quelques lettres, et donc elle vient la trouver pour lui demander d'envoyer une carte postale à la maîtresse pour dire que la maîtresse est très gentille et puis qu'elle aime bien aller à l'école. Voilà, il y a une dame qui perd son animal de compagnie, c'est un singe, et la voisine voit cette dame très affectée par la perte du singe, donc elle lui envoie une carte de condoléances, voilà. Et alors, donc, c'est vraiment hyper intéressant, c'est assez, il y a quand même un côté un peu folklorique, mais on plonge au quotidien, en fait, dans les dans les tracasseries de société du Japon, parce que si je lui dis bonjour en premier, qu'est-ce qu'elle va penser, parce que j'ai 2 ans de moins qu'elle, et tati, et tata. Donc on est vraiment là-dedans. C'est hyper intéressant parce que...
Et est-ce que je vois que tu as la version poche. Moi, je l'avais lue en version brochée. Oui. Et il y avait toutes les lettres dedans.
Elles
tu les as aussi.
Ouais. Ah, alors, elles sont en noir et blanc. Je ne sais pas si tu avais les couleurs.
Non, c'est en noir et blanc.
Ouais. Alors, ça, c'est très intéressant aussi à voir. Mm-hmm. Et je vous ai sélectionné un passage parce que je trouve que ça montre à merveille la mentalité, la teneur un peu du bouquin. Vraiment, moi, c'est passionnant. Je l'ai lu en quelques soirs. Donc elle dit « Comme les lettres de condoléances sont régies par de nombreuses règles, j'ai ouvert le vadémécum laissé par l'aîné pour me les remémorer. » L'aîné, c'est sa grand-mère. « Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai commencé à préparer l'encre. Pour des condoléances, la règle veut qu'on broie l'encre à l'envers, de droite à gauche. Comme je faisais presque toujours le geste de gauche à droite, j'étais un peu malhabile dans le sens inverse. En faisant bien attention de ne pas frotter trop fort le bâton, j'ai fait couler l'encre dans le réservoir de la pierre. Dans ces cas-là, on prépare une encre assez délayée. Pour ce qui est des formules à éviter, on fait en sorte de ne pas utiliser des mots tabous comme « encore une fois »,« à nouveau », »,« une fois de plus ». Donc je rappelle qu'on est sur une lettre de deuil, hein, de condoléance. De même, pour éviter d'attirer la mort une nouvelle fois, on n'ajoute pas de proscriptum. On peut également se dispenser des titres honorifiques et des formules de politesse. J'ai posément soulevé mon pinceau et en un instant, j'ai rassemblé en moi toute la tristesse du monde, comme si mes glandes lacrymales étaient aimantées. Dedans, il y avait mon chagrin d'enfant à la mort du poisson rouge et la peine que m'avait causée la disparition de tante Sushiko. Je vous passe la lettre. Ce message de sympathie, je l'ai rédigé avec une encre beaucoup plus pâle que d'habitude. Délayer l'encre, c'est le signe d'une grande tristesse. Les larmes tombées sur la pierre à encre ont éclairci la couleur. Et pendant que j'écrivais, l'image de Madame Calpi m'est apparue à plusieurs reprises. Un bref instant, il m'a semblé que sa main se superposait à la mienne et que nous tenions le pinceau ensemble. Donc vous voyez toute la préciosité.
C'est que d'un moment merveilleux, cette lecture, où on est apaisé, on est bien, on est...
Chaque fois, elle explique pourquoi elle choisit ce timbre, cette écriture, tel grain de papier.
Tout à fait.
Et en même temps, il se joue une histoire, c'est pas juste, c'est grande
définition. C'est pas une prise de tête ou une... On sent que c'est, tout est dans la douceur, le respect,
C'est très beau. Oui, la forme a autant de valeur que le fond, tout est signifiant.
Tu as lu la suite ou pas?
Alors non, j'ai pas lu la suite, mais bien sûr, je vais le faire. Oui, c'est magnifique. Voilà, oui.
Qui est un peu moins bien, La République du Bonheur.
C'est différent, mais on a envie parce que sur l'écriture, c'est moins bien parce qu'on est plus dans l'histoire que là, on est vraiment, c'est ce qui est magnifique, c'est ses détails, justement.
Activité d'écrivain public,
c'est
passionnant.
C'est l'aîné, moi j'avais une affection pour cet aîné qui, pourtant, soit disant, était dur ou autre, mais qui m'avait laissé,
on a envie de connaître,
puis de force.
Et par contre, la suite, la République du Bonheur, c'est plus sur la vie
D'Atoko.
D'Atoko, Mais ça fait plaisir. On a besoin en plus de savoir ce qui.
Oui, tout à fait.
Vient après de tout ça et. Non, moi, c'est le Japon dans
dans toute sa finesse, oui. C'est vraiment un super roman d'été, quoi. Un truc qui fait du bien, qui est pas prise de tête, qui est enrichissant, je trouve. Oui, vraiment, immense coup de cœur. Et effectivement, en parallèle, donc, de son activité publique, il y a toute sa réinstallation à Kamakura. Donc, elle fait des rencontres, ses voisins, des nouveaux amis. Au début, elle est un peu seule. Et puis, sa vie s'enrichit. Et ça aussi, c'est très beau.
Est-ce qu'il aurait pu avoir quelque chose de dur parce qu'elle était jeune, elle revient vivre finalement, elle arrête sa vie de jeune future jeune femme pour revenir vivre avec, parce qu'il y a sa tante de mémoire, non?
La tante est morte, oui.
Elle
était très attachée à sa tante.
Elle ne vivait pas la grand-mère avec la tante?
La tante, oui, mais les deux sont décédés quand elle revient.
Ah d'accord, il me semblait que c'était qu'une des deux, tu vois, j'avais un peu oublié, c'est vieux.
Valérie, toi, tu qui as lu la suite, elle est toujours écrivain public, elle est toujours dans sa papeterie ou ça évolue?
Non, elle continue toujours son activité, mais vraiment, on n'a plus ses détails. Par contre, on n'a plus ses lettres rédigées, mais c'est vraiment sa vie avec un des personnages qu'on rencontre là dans le livre.
Il y a une relation amoureuse, naissante à la fin du livre.
Qui va se tramer et par contre il y a beaucoup la nourriture. Alors c'est peut-être parce que c'est l'heure de manger que je parle de ça, mais il y a beaucoup la notion de nourriture. Oui. Mais je pense qu'il y a un petit sachet qui lui a été livré
qui sert de déclencheur de mémoire.
Oui, elle en parle très souvent longtemps. De ce qu'elle mange au resto. Ouais. Elle en parle très très bien. C'est vrai que oui. Ça donne l'eau à la bouche. Enfin, vraiment, c'est réussi. C'est, ouais. C'est magnifique.
Ouais, tout à fait.
Je conseille.
Maison d'édition.
Piquier
encore.
Kawaito, oh la papeterie de Tsubaki.
Allez, on va terminer cette émission en parlant de peut-être de nourriture. Je ne sais pas au vu du titre, Valérie. Un livre qui s'appelle Fraises et chocolat.
Oui, alors très très rapidement, mais c'est pour rire. Hein. C'est pour rire parce que la fraise et le chocolat ne sont absolument pas. Enfin, oh, ça peut être consommé, mais
pas en public. Ça se consomme la fraise et le chocolat.
Pas en public. Non, c'est, alors j'en parle pour le clin d'œil parce que je devais parler de la péninsule aux 24 saisons d'Inaba Mayumi
qui avait l'air très beau,
mais qui est magnifique. Comme Ogawa Ito, en fait, c'est une année racontée par l'autrice, mais en fait, une année pour elle, c'est 24 saisons. Elle détaille tellement l'évolution de la nature et des comportements pendant une année, qui pour nous 12 mois, qu'elle raconte à quelle dans une année il y a 24 saisons. Donc je vous recommande très chaleureusement chez Piquier toujours.
Il y a un chat aussi.
Aussi, bah oui, c'est le fil rouge de notre émission. Voilà, la péninsule aux 24 saisons. Mais pour de rire, parce que la sélection nous avait été faite par Marie-Jeanne, je pense, de la BD. Et je me suis dit, il faut qu'elle assume quand même sa petite sélection, Marie-Jeanne.
Ah, mais Marie-Jeanne, elle aime ce genre de livre. Ah, hein.
Écoute,
oh là là.
Je ne sais pas si Marie-Jeanne aime, mais ouais. Disons que j'ai pris cette BD, et toujours pareil, comme souvent je le fais, je l'ai ouverte chez moi sans regarder le genre d'image, Fraises et chocolat d'Aurélia Horita, qui est coréenne à la base, mais qui a écrit cette BD sur un voyage au Japon. Elle avait un petit amoureux qui était éditeur français, qui était au Japon sur une tournée. Elle l'a rejoint, elle a été dessinatrice-autrice, et elle l'a rejoint là-bas.
Et elle lui léchait le menton. Je te dis ça par rapport à la première de couverture.
Absolument.
Menton, à part.
Et je me suis fait avoir, parce qu'effectivement, il n'y avait pas que le menton. J'ai eu des détails dignes du plus grand livre qui commence par Kama et qui finit par Sutra. J'ai eu des détails, des choses que j'ignorais même que la nature était capable de faire.
C'est vrai que la couverture ne laisse pas entendre un seul instant.
Et en fait, voilà, donc j'en parle en clin d'œil pour terminer, parce
Marie-Jeanne.
Qu'il fait beau et c'est le printemps et les hormones se réveillent. Mais c'est vraiment une BD très très crue parce qu'il y a deux enfants pas loin. Je ne peux pas utiliser d'autres vocabulaires. Voilà.
Utilise.
Ok, c'était.
Ils sont habitués avec leur mère.
C'était enfants, Ludo. Donc les enfants de Ludo, je vais quand même les épargner ce genre de vocabulaire.
Là.
Voilà. Non, voilà. Énorme. Donc c'est vraiment. J'ai été au départ, j'ai été choquée. Pourtant, je suis pas plus prude que
la moyenne.
Que la moyenne des gens.
Mais
voilà, donc là c'est vraiment tous les elle a écrit deux histoires, voilà,
il y a un pavé en plus.
C'est un sacré pavé, c'est assez long à lire en plus.
Et Marlène saute dessus.
À chaque page. C'est ça. À chaque page, il y a une scène voilà, donc ça évolue petit à petit, c'est-à-dire que les pratiques au fil du temps vont de choses très sensuelles, des choses très érotiques, à des choses très pornographiques, et puis très 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 pornographiques. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est qu'à la fin, quand j'ai voulu un peu étudier la biographie, c'est une histoire vraie. Elle raconte comment elle a été rejointe dans son amant, plus âgé, donc plus expérimenté, comment ils ont vécu. Et en fait, c'est vraiment sa vie. Donc autant, je me dis, elle se met en scène, pourquoi pas. Mais j'ai eu une pensée émue pour cet éditeur. Et c'est pratique, et je me suis dit, eh ben mon gars. Voilà, donc c'est bon, c'était pour la petite blague, c'est léger, si vous avez envie. Alors on n'est pas du tout sur du manara ou des choses comme ça, où c'est vraiment de la BD érotique pornographique. Là, j'arriverai pas à le.
Je vois que la collègue a mis humour dessus.
C'est, ouais,
t'as
mais
trouvé
humour,
ça
ouais,
drôle.
Mais j'ai beaucoup de vulgarité quand même de pornographie.
Pour Marie-Jeanne, c'est de l'humour ça.
Ouais.
T'inquiète.
C'est léger ça.
Ouais, c'est. Alors je mettrai plus. Je le mettrai pas. Disons que je l'ai caché moi après. Voilà, je l'ai caché pour pas qu'il reste dans toutes les mêmes, parce que ça paraît pas, parce que le trait est très très
oui
presque enfantin,
presque adolescent,
presque, voilà.
Hein.
Voilà. Non, c'est mignon, BD, mais tourne la page d'après là. Voilà.
BD pour les jeunes.
Là, ils sont au préliminaire et rien. Oui, mais ça mène là dans le jean et hop. Voilà.
Ah ben tiens,
il est l'heure de passer à table.
D'accord. Mais tu juste
non, par contre voilà pour vraiment clôturer par rapport au Japon, parce qu'on en parle je suis tombée sur un livre un peu par hasard qui est le dictionnaire amoureux du Japon, où on va trouver dans ce dictionnaire c'est un gros pavé tasse, hein, c'est vraiment un pavé, je sais pas, il doit y avoir 1300 pages en papier cigarette, où on va avoir tous les mots types du Japon. Par exemple, si je le dis à Pauline, elle va de suite se rappeler qu'est-ce que c'est que le seiza.
Oui, c'est le maître.
Voilà,
non, c'est le sensei.
accroupi là.
Oui, c'est ça. Voilà, le seiza, c'est la première posture au karaté quand on va saluer. Et c'est quelque chose, c'est un mouvement qui n'existe pas en France. C'est le fait de s'asseoir sous tout droit, se tenir sur ses jambes pliées, sur le tatami. Enfin, Jules doit connaître aussi. Voilà, ça. Bien sûr. Et en fait, c'est le dictionnaire amoureux du Japon par Richard Collas chez Plon donne toutes les explications de tous ces petits mots spécifiques au Japon que personne ne connaît et aussi parle de beaucoup d'auteurs japonais ou qu'est-ce que c'est qu'un haïku, sur les mangas, sur les geishas. Et c'est vraiment un dictionnaire spécifique au Japon. Et c'est fabuleux parce qu'on retrouve tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a découvert, tu vois, sur ce que Marlène a dit sur les temps, retrouver ce manga qui se lit dans le bon sens, avec de l'aquarelle, avec cette douceur, avec les croyances. Un dictionnaire, c'est très sympathique de l'avoir. On ouvre au hasard et on trouve une définition. Et ça fait du bien et c'est vraiment japonisant.
Merci beaucoup Valérie, c'est chez Plon. Rappelle-nous le nom de cet éditeur de cette BD érotico.
Je ne sais pas, tu l'as fait
Adèle
disparaître.
Plongée avec passion
Adèle,
dedans.
Adèle Chiron, de 48 FM, qui l'a pris. C'est chez Les Impressions Nouvelles et c'est Fraises et Chocolat.
Qui est parti imprimer des pages.
Aurita, Adèle est en train de faire des photocopies.
Elle fait des photocopies.
La photocopie, tu le livres. Et
je ne sais pas pourquoi.
Tu vas plus son agenda.
Alors ça se tient dans l'autre sens, là, ce que tu viens de prendre en photo, cette position qui font.
Voilà.
Là, en fait, elle a sa tête dans le...
Oui.
Bonne journée à
merci.
Tout le monde.
Eh ben, c'est une belle fin pour cette dernière de l'année. Merci beaucoup pour cette année, les auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés tout au long de l'année. Bien sûr, on reviendra en septembre. Claire, Marlène, on est prêts?
Mais oui, on
bien
sera sûr. Là.
Oui, oui.
Ouais. Et Claire a même décidé du thème de septembre.
Joël Batz, gardien de ma vie.
Ouais,
voilà.
En plus, le petit réclame une chanson de foot depuis tout à l'heure.
Bon,
je vais pas contredire.
Voilà. Merci beaucoup les filles, bon été à tout le monde. On va remettre ces émissions pendant tout l'été pour les réécouter comme ça. Quand vous savez pas quoi lire, hop, vous écoutez notre émission et vous pouvez acheter le livre correspondant ou aller à votre bibliothèque ou à la médiathèque départementale si vous êtes abonné pour récupérer des livres. C'est ça Marlène, je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Voilà, que t'es pas tout le monde qui vienne d'un coup. Hop.
On veut des livres.
Voilà, c'est ça. On aimerait le dernier livre présenté par Valérie.
Là. Tu sais
là, fraise chocolat. Truc de cuisine.
Pour l'instant, il est disponible.
Voilà, il est disponible. Peut-être pas pour longtemps, mais il est. Merci beaucoup. Allez, on se dit à la saison prochaine et on laisse notre ami nous dire
au revoir.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.